chronique terrienne, parce que nous voulons des coquelicots et des abeilles. Une fois par mois, sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
C'est l'été. Nous allons voyager un peu, histoire de nous changer des pesticides. Nous allons évoquer les peuples d'un autre monde que le nôtre. Ce qu'on appelle indigène, primitif, autochtone. Le faisant, nous ne sommes pas très éloignés du sujet des chroniques terriennes diffusées sur Radio Saint-Afrique depuis décembre 18, parce que ces pesticides, contre lesquels nous luttons, ils font partie d'une logique financière, capitaliste, qui justement n'a de cesse de faire disparaître ces peuples autochtones qui n'ont pas les mêmes références que nous et dont la présence retarde la prise de profit sur de nombreux territoires. Malgré plus de 500 ans d'attaques en règle contre ces peuples, il en existe encore qui se battent pour survivre. Mais le combat est inégal et, un par un, ils risquent de tous disparaître. Et le triomphe de la pensée unique, c'est la mort. La biodiversité humaine est aussi importante que la biodiversité dans la nature. Nous perdons peu à peu toute capacité de résilience face au désordre mondial. Je vais vous raconter l'histoire d'une quête, aujourd'hui. Quête d'une société pour sa survie, celle des Kogis. J'ai puisé dans le livre d'Éric Julien, Kogis, le message des derniers hommes, l'essentiel de ce que je vais vous confier, mais aussi dans le travail des élèves du collège Le Vergeron à Moirans dans l'Isère. Les Kogis sont les descendants des Taïrona, peuple colombien massacré au XVIe siècle par les conquistadors. Pour survivre et continuer à vivre selon leur culture héritée de la civilisation Taïrona, les Kogis se sont repliés dans les hautes vallées de la Sierra de Santa Marta, la plus haute chaîne côtière du monde, culminant à 5800 mètres, et ce, à moins de 45 km de la mer des Caraïbes. Malheureusement, ils ont été à plusieurs reprises et de nouveau menacés de disparition. Et le plus récemment, parce que sur leur territoire s'affrontent les paramilitaires et la guérilla. Ils sont régulièrement accusés d'un côté ou de l'autre de collaborer avec l'ennemi. S'en suivent assassinats, pillages de leur village, ils ne peuvent plus circuler comme ils le veulent. Et de plus, le plan d'éradication de la coca entraîne des épandages massifs de pesticides qui brûlent leurs terres, polluent les eaux, et ils ont de plus en plus de mal à cultiver et à cueillir le nécessaire pour leur subsistance. Des Kogis, chassés de leurs terres ancestrales par ces guerres, ont pu retrouver un lieu grâce à l'action de l'association créée par Éric Julien, qui rachète des terres dans la Sierra de Santa Marta, permettant ainsi le regroupement des Kogis. Nous allons nous consacrer à ce qu'ils croient, au travers de la nature, des puissances supérieures à l'origine du « comment va l'humanité » ou plutôt « les hommes », puisque comme pour beaucoup de peuples, le nom qu'ils se donnent veut dire « humain ». Voici ce que croient les Kogis. Aluna, la pensée, a créé des formes différentes pour chacune des expressions du vivant. Et chacune de ces expressions, de ces formes, a son Aluna, sa pensée, capable de communiquer avec les autres et d'être reliée. Tous les êtres vivants ont une pensée, une force qui dynamise la vie. Les interactions entre la pensée Aluna et la matière créent une autre force, une autre énergie, que les Kogis appellent Seiva,
la conscience. C'est la seiva qui donne la capacité d'agir. Aluna et la seiva ne sont ni positifs ni négatifs en eux-mêmes. Cela dépend des circonstances, mais l'un ne peut être pensé sans l'autre. Et la seule question qui préoccupe les Kogis est de savoir comment maintenir l'équilibre. Afin d'atteindre ce but, il leur faut demander la permission et faire les offrandes nécessaires pour agir. Une manière de respecter l'autre dans sa dimension spirituelle et matérielle, quelle que soit sa forme et son apparence. Si les Kogis transgressent cette règle, alors Aluna quitte la matière. Ils restent avec leurs dettes, leurs déséquilibres et doivent en assumer les conséquences.
Au début, il y avait la mer. Tout était obscur. Il n'y avait pas de soleil, pas de lune. La mer était partout. La mer était la mer. Le monde a la forme d'un œuf, très grand, posé avec la pointe vers le haut. Dans cet œuf sont les neuf terres. Ce sont des grandes plateformes arrondies, les unes posées au-dessus des autres. Nous, nous vivons sur la terre du milieu. Nous l'appelons Senenumayang. Au-dessus de ce monde, jusqu'en haut, il y a quatre mondes. Bunkuaneyumang, Alunayumang, Elnauyang et Koktomayang. Ces terres sont bonnes. L'univers, ce grand œuf, est très lourd. Il est soutenu et porté sur deux larges poutres et quatre hommes le soutiennent, deux à l'ouest et deux à l'est. Sous le monde, il y a de l'eau. Sur l'eau, il y a une grande pierre, plane et particulièrement belle. Sur cette pierre, la mer est assise. Elle donne de l'eau et à manger aux quatre hommes qui soutiennent le monde, pour qu'ils ne se fatiguent pas. Quand l'un des quatre hommes change la poutre d'épaule, alors la terre tremble. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de s'agiter, de lancer des pierres, de faire des éboulements dans la montagne ou de crier. Si l'on fait cela, le monde va trembler et il risque de tomber des épaules des quatre hommes qui le soutiennent. Chacun des neuf mondes a sa mère, son soleil et sa lune. Et en chacun de ces mondes vivent des gens. Dans les terres les plus hautes vivent les géants. Dans les plus basses vivent les nains. Dans les temps très anciens, les gens de notre terre allaient visiter les terres d'en haut, des terres où l'on ne vieillissait pas. Aujourd'hui,
ce n'est plus possible. Avant, il n'y avait que des Indiens qui vivaient ici, que des frères entre des frères. Puis sont arrivés les Blancs. Ils ont poursuivi les Indiens avec leurs maladies, leurs méchancetés. Ils sont venus d'une autre terre, d'une terre d'en bas. C'est pour cela que ce sont des gens mauvais. Un jour, les quatre hommes qui soutiennent la terre vont être fatigués. Ils n'auront plus de force pour soutenir le monde. L'un d'entre eux va laisser tomber une poutre, puis une autre. L'univers va alors se renverser et tomber dans l'eau. Seule la mer restera. Mais tous les gens vont mourir. Quand cela va arriver, ce sera la fin du monde. Puis, les pères et les mères viendront de nouveau.
Que yo tengo que tocar aquí adentro con la presencia de esta tabla, la tabla tiene que estar aquí adentro. Ahí.
Voilà comment les Kogis décrivent leur territoire, moutonnement régulier de montagnes abruptes et de vallées profondes. Écoutons Fiscalito, apprenti chaman, ou comme les nomment les Kogis, Mamou. Ici, c'est notre territoire. Il est délimité par une ligne imaginaire que nous appelons ligne noire. C'est une ligne qui entoure la Sierra au niveau des terres basses. Elle s'articule autour de quatre points principaux et avec eux de nombreux lacs, rivières, sommets et embouchures de rivières, répartis entre la côte et les sommets les plus élevés. C'est un peu comme une maquette du globe terrestre. On y trouve la mer, les déserts, la neige, des zones d'altitude, des zones tempérées et une très grande diversité naturelle. Sur ce territoire, nous pouvons circuler depuis la mer jusqu'au sommet, ce qui nous permet d'être en relation avec toutes les formes de la vie, tous les êtres vivants. Quand une famille s'installe, elle doit pouvoir disposer d'une grande diversité de cultures liées aux différentes altitudes et aux différents climats. Il faut aussi qu'elle puisse accéder aux lieux sacrés, aux plantes médicinales traditionnelles et aux connaissances qui leur sont associées. Mais toutes ces montagnes, ce n'est pas seulement un territoire physique. Pour nous, c'est le cœur du monde, de la vie. C'est un espace vivant, comme un corps. C'est là que l'on peut faire nos rituels et notre travail spirituel. Si on ne fait plus ce travail spirituel, tout va s'arrêter. Si nous faisons comme les petits frères, entendez, nous les blancs, si nous commençons nous aussi à abîmer la nature, à couper les arbres, l'eau va disparaître, tout va brûler. Nous devons continuer à protéger le cœur du monde. Ce territoire pour nous, c'est comme une personne, nous devons rester auprès d'elle. Mais vous ne voyez rien, la mer est morte et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est pour cela qu'il y a des inondations, des avalanches, des problèmes partout. Parce que la terre tombe malade, comme une personne. Vous la maltraitez, alors elle meurt. Notre travail à nous, c'est de protéger la terre. Nous ne pouvons pas la laisser mourir. Nous devons la sauver pour nos enfants. Nous devons étudier encore, pour apprendre, pour savoir comment réparer ces blessures. L'idée de justice est liée à l'usage bon ou mauvais que l'on peut faire des ressources offertes par un territoire. Si un homme n'a pas de terre, il n'a pas de lieu où apprendre, où se former et où former ses enfants. C'est comme cela qu'une communauté ou une personne peut risquer de perdre le sens de la justice et donc ne plus pouvoir vivre en équilibre. Tout est connaissance, tout peut être étudié. Pour nous, la nature est comme vos livres. Tout y est écrit. Si nous perdons ces connaissances, si les jeunes n'apprennent plus, ils vont devenir sourds et aveugles. Ils ne sauront plus parler avec la nature. La mère nature est la loi. Elle porte les règles et toute transgression de la loi nécessite réparation. Car l'homme aussi est un être de nature. Et c'est la nature dans son ensemble qui peut être affectée par une injustice. C'est pourquoi quand les Kogis ont pu réinvestir les lieux ancestraux de la Luna, rachetés par l'association Tchekendukua, leur première préoccupation, leur premier travail a été de les nettoyer spirituellement, les purifier, les remettre en équilibre avec la mère nature, pour pouvoir de nouveau parler avec la nature, pour entretenir la mémoire. Les Kogis parle beaucoup de la mémoire et de son importance. Que veulent-ils dire quand ils parlent de mémoire ? Ce que nous appelons la mémoire, disent les mamous, c'est la connaissance des lois naturelles, de ses origines. Elle représente le savoir, et c'est pour cela que les anciens, leurs connaissances, leurs expériences sont si importantes. Mémoire de ce qu'il faut être, du juste, du bien, mémoire d'un chemin qui permet à chacun d'être. Il faut obstinément préserver la mémoire, la faire vivre pour éviter que le monde ne devienne obscur, au risque de nous entraîner définitivement dans le chaos et la destruction. Les petits frères ont perdu leur mémoire. C'est pour cela qu'ils font des lois. Ils font des lois, puis d'autres lois qui engendrent d'autres lois. Ce n'est pas ça la mémoire. Ce n'est pas ça la mémoire d'un peuple. La mémoire, elle ne s'écrit pas. Elle s'exerce. Elle se vit chaque jour. J'aurais envie de définir la mémoire des Kogis comme la perpétuation des connaissances acquises au sein de la nature, grâce à une recherche attentive des hommes, et en particulier des initiés, pour comprendre leur environnement et donc en respecter l'équilibre et donc en déduire des règles de conduite pour l'individu et le groupe. C'est un peu comme nos sciences occidentales où s'accumulent des connaissances de génération en génération, sauf que le fil qui conduit nos recherches n'est pas orienté vers le bien et l'équilibre de la société. Tout peut faire l'objet de recherches dans toutes les directions et toutes ces recherches entrent en application quelles qu'en soient les conséquences, surtout si elles sont un moyen de faire des bénéfices en monnaie sonnante et trébuchante. J'ai rencontré quelqu'un qui est allé se balader du côté de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ce n'est pas tout à fait chez les Cogis, mais chez leurs frères, descendants eux aussi des Tairona. Et bien sûr, je n'ai pas résisté à l'envie de l'interviewer pour qu'il nous parle de son vécu là-bas. Écoutons-le.
Je suis avec Julien que j'ai rencontré à Radio Larzac, comme par hasard, et je parlais de ma prochaine émission qui était sur les Cogis, et voilà que Julien me dit « J'ai vu les Cogis !» C'était extraordinaire. Voilà, je suis avec Julien Monredon pour lui poser un certain nombre de questions. Et la première, c'est comment et pourquoi est-ce que tu as vu les Cogis ?
Alors en fait, je te précise juste ça, parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais nous on a vu les Wiwa, c'est les frères des Cogis. C'est des gens qui habitent aussi dans la Sierra Nevada, là-bas. Voilà, c'est un petit peu différent.
Mais ils, sont dans la Sierra de Santa Marta,
c'est au même endroit, voilà. Et c'est des gens qui sont en, interaction avec les uns avec les autres.
Et pourquoi est-ce que tu t'intéresses
Ben moi, du coup, on avait lu, on devait partir en Colombie depuis un moment. C'était un peu documenté, voilà, sur ce qu'il y avait à faire là-bas, ce qu'il y avait à voir, sur les choses intéressantes. Du coup, on est tombé sur des informations sur cette partie de la Colombie, de la Sierra Nevada, et au nord, là, qui est un petit peu perdue toute seule, et on est tombé sur des indications sur ces peuples indigènes, les Kogi, les Wiwa, et toute cette civilisation Tairona, en fait, qui existait depuis longtemps.
Oui, parce que les Wiwa, ils sont aussi descendants des Tairona.
Les Wiwa, les Kogi, ils sont descendants de toute la civilisation Tairona, en fait.
Bon, pourquoi est-ce que tu t'intéresses particulièrement?
Eh bien, du coup, c'est toujours intéressant de voir des gens qui ont un mode de fonctionnement complètement différent du nôtre.
Ouais.
Donc, du coup, et donc, on s'est baladé avec eux. Voilà. C'est la différence par rapport aux autres tours opérateurs qu'il y a autour, où c'est des gens, des Colombiens aussi, qui vont pouvoir te parler du pays, mais qui vont pas te parler forcément des mêmes choses, parce que ils sont pas dans le même mode de pensée, on va dire.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté?
Eh bien, ils nous ont raconté tout ça. Nous, en fait, on venait pour voir... c'est un trek qui permet d'aller à la Ciudad Perdida, des anciennes constructions qui ont été faites par le peuple Tairona. On leur a déjà demandé, les Tairona, pour eux, c'était qui, en fait, qu'ils avaient comme lien. Et ça a été assez... C'est assez difficile, en fait, de savoir, puisque, du coup, on pense pas du tout pareil. Donc, les Tairona, c'est des gens qui étaient là-bas avant que les colons, en fait, arrivent. C'est exactement les mêmes personnes que les Wiwa ou que les Kogi. C'est dans la continuité. Mmh. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs... il y a quatre petites sous-civilisations qui se sont développées à la suite des Tairona.
Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que les Tairona avaient été complètement décimés par les conquistadors.
Ouais, c'est difficile, en fait, vraiment, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est que les Tairona, ils étaient partis dans un autre monde. Et après, en essayant de questionner un petit peu, de trouver l'explication, il nous a dit qu'en fait, quand les Tairona avaient construit ça, les Kogi, les Wiwa, ils étaient déjà là, ils existaient déjà. Mais comme il y a eu toute cette période de protection de toutes les constructions et de la civilisation, où il y a eu les persécutions avec les conquistadors, et après, plus tard, il y en a eu d'autres, et ben du coup, en fait, ils ont fait un petit peu... Les Tairona, ils ont dit, pour protéger tous ces lieux sacrés, il faut qu'on disparaisse. Il faut qu'on laisse la forêt reprendre, la nature reprendre ses droits à ces endroits-là. Et qu'en fait, on n'y aille plus de manière régulière. Qu'ils y allaient toujours, mais c'est devenu caché. Et à ce moment-là, ils nous ont dit que du coup, les Tairona, ils s'étaient partis. C'était un petit peu, voilà, disparaître pour mieux renaître.
Voilà, disparu officiellement, quoi.
Voilà, officiellement, la civilisation avait disparu. Mais après, oui, ils étaient déjà émanants, ils étaient déjà existants à cette époque-là, en fait. Et après, ils sont ressortis quand, de nouveau, on s'est intéressé à toutes ces civilisations qui ont existé. Et puis, du coup, elles ont disparu, elles n'ont pas disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, leur vie
Tout est équilibre. Tout est équilibre, la nature elle existe, elle est là, l'homme il est à l'intérieur de la nature, mais il n'est pas prédominant, tout ce qu'il fait doit être compensé par... il doit faire certaines choses ou il prend certaines choses, et du coup il doit les compenser pour que l'équilibre soit toujours là, quoi. Donc ça veut dire que c'est des gens qui chassent, c'est des gens qui pêchent, c'est des gens qui ramassent des choses, c'est des gens qui cultivent, mais par contre tout ce qu'ils font, ils le font en ayant conscience de prendre certaines choses, et du coup ils doivent redonner à d'autres moments. Bah, toute une culture de l'offrande, quoi, qui va en réponse à la prise, quoi. C'est pas parce qu'il y en a aujourd'hui qu'il doit toujours y en avoir. S'il y en a pas, bah, il y a une autre période où, voilà, on fait autre chose. Et par contre, il y a toujours les offrandes. Toujours en lien avec la nature, et une prise doit être compensée par une certaine offrande. Après, c'est des offrandes qui sont pas forcément de dégorger quelqu'un et de dire voilà, tu vas passer sur l'autel de l'offrande, mais c'est des petites choses, des choses qu'ils ramassent à des endroits, qu'ils emmènent à d'autres endroits. Et ils ont surtout cette communion, quoi. C'est pas une grosse offrande parce qu'ils peuvent pas offrir beaucoup, mais en fait, ils offrent pour être dans l'esprit de l'équilibre, quoi. Ce qui a été pris doit être redonné. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils nous appellent que pour eux, on est les petits frères par rapport aux grands frères. C'est parce qu'eux, ils ont cette conscience de ça, cet équilibre, qui est important à respecter, sinon les choses vont changer. Et nous, on est les petits frères parce qu'on n'a pas compris ça. Et donc du coup, on est en train de créer un déséquilibre énorme, quoi.
Et vous n'avez pas eu de contact, vous n'avez pas entendu parler des paramilitaires et des FARC, qui paraît-il, les ennuient beaucoup.
Ils sont toujours là, sur cette zone, on va dire, du trek de la Ciudad Perdida. C'est une zone qui est quand même militarisée. Quand on arrive à la Ciudad Perdida, qui est un endroit perdu, il y a ces espèces de plateformes qui existent, qui ont été construites, et les hélicoptères de l'armée atterrissent ici, l'armée vient pour sécuriser tous ces lieux-là. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu plus tranquilles parce que le gouvernement colombien les aide un petit peu dans cette partie-là. Ils sont aidés aussi beaucoup de l'extérieur, par plein d'organismes, gouvernementaux ou pas d'ailleurs, pour récupérer des terres, comme tu disais. C'est très 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 lent par rapport, on va dire, à l'occupation qu'ils avaient, pas une occupation dense, mais ils avaient une occupation énorme d'un très très grand territoire. Ouais. Et du coup, ils ont été chassés donc par les paramilitaires et les guérillas liés à la drogue. Et du coup, en fait, ils se sont retrouvés à faire le tour de la Sierra Nevada. Donc eux, les Cogis et les Wiwa, qui sont dans la partie nord de la Sierra Nevada, qui est la partie la plus proche de l'océan, eux, ils ont été beaucoup persécutés, parce que eux, ils habitent dans cette partie-là. Les deux autres tribus, qui, elles, sont plutôt dans la partie sud et dans le haut de la Sierra Nevada, ont été beaucoup moins ennuyés, parce que c'est une partie qui est moins intéressante pour les paramilitaires, enfin, pour tous les groupements liés à la culture de la coca. Et donc, du coup, eux ont été en moins embêtés. Les Cogis et les Wiwa, eux, ils ont été obligés de se déplacer beaucoup, et du coup, de perdre un petit peu ces terres qu'ils avaient cultivées, les endroits où ils avaient leurs animaux. C'est difficile d'avoir une idée claire de ce qui se trame. Mais voilà, ils essayent toujours de dire, nous on éduque pour qu'il y ait toujours ce respect, cet esprit, toutes les traditions qui se suivent. Et bah, par contre, après, chacun, en fait, comme il l'entend dans la communauté, l'entendre de vive voix, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a vécu avec des gens qui n'ont pas l'air d'être malheureux. Et comme nous, on peut parfois l'entendre, on se dit, mais c'est pas possible, cette misère de vivre dans des conditions pareilles. Et en fait, ils sont pas malheureux, il n'y a pas de malheur, quoi. On n'a pas la vérité, quoi, par rapport à ça, par rapport au bonheur, par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut en retirer, quoi. De se dire que vivre de manière aussi plus simple, avec pas tant de choses matérielles, finalement, au final, c'est pas plus mal, quoi. Après, voilà, c'est toujours pareil, la balance, où est-ce qu'on se situe pour passer d'un côté à l'autre, ça, c'est pas évident, quoi. On peut être ancré pendant quelques jours, vivre avec eux, voir comment ils font. On nous a expliqué, eux, ils font toujours la culture de la coca parce qu'ils ont l'autorisation, parce que c'est quelque chose qui a du sens, ce qui est un petit peu chamanique, avec le mamou, avec eux, par rapport aux offrandes qu'ils font, avec le poporo, qui est une sorte de calabasse, en fait, qui est creuse, et dans laquelle ils vont briser de la poudre de coquillage. Donc ils vont souvent chercher des coquillages au bord de la mer, c'est aussi un rituel pour les ramener. Après, c'est brisé, ils le mettent dedans, et après, en mâchant avec la coca, ils ont une sorte de petit bâton qui est à l'intérieur du poporo. Avec ça, en fait, c'est un moment privilégié avec qu'ils utilisent, et du coup, c'est un peu un moment de communion avec la terre, avec tout ce qui se passe, où ils peuvent revenir sur des événements qui se sont passés les derniers jours. Voilà, ça marche complètement différemment, je pense. Il n'y a pas le psychiatre, il y a ça. Ouais. Ça, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux vivre cette manière-là?
En prenant ce qu'ils font en exemple, savoir où nous on peut se situer.
Il y a un confort qui existe aujourd'hui et qui est appréciable. Pour vivre en société, c'est difficile, c'est difficile de faire différemment. Mais on peut certainement avoir une réflexion sur au moins toute la consommation, toutes les choses qui sont prélevées et comment faire pour peut-être réduire un petit peu ça, ou en tous les cas en avoir la conscience déjà. De voir des gens vivre comme ça, ça nous fait... On a vraiment le reflet et on peut voir ce qui se passe de notre côté, quoi. Yeah.
Et bien voilà pour les Kogis. Dans la prochaine émission des Chroniques terriennes, je vous parlerai des Madanes, c'est-à-dire le peuple des roseaux. À bientôt !